Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la reine est morte, vive le roi, le prince Charles désormais, le roi Charles III répète depuis longtemps déjà que nous devons placer la nature au cœur de notre mode de fonctionnement et que nous ne pouvons tout simplement pas perdre plus de temps. Espérons que son accession au trône britannique aura des répercussions bénéfiques parce qu'il est temps de couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. J'aime bien cette image employée par l'éco-socialiste Corinne Morel-Darleux. Or, la mèche est de plus en plus courte. Nous n'avons plus le temps de débattre du pourquoi. Il faut mobiliser toute notre intelligence collective sur le comment. Mobiliser l'intelligence collective, c'est l'un des objectifs du festival Climax qui a lieu ce week-end à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. L'eau, notre destin commun, c'est le thème de cette 8e édition qui se déroule à l'espace Darwin, un lieu alternatif implanté dans une ancienne caserne désaffectée, et c'est là que nous avons installé notre studio.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Nathalie Bois.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans cette 8e édition du festival Climax. Le thème de l'eau s'est imposé cette année pour vous ?
Le thème de l'eau s'est imposé et s'est allé même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, à vrai dire. Parce que quand on a réfléchi et conçu sur cette question, on était loin d'imaginer qu'on allait être rattrapé dans l'été par la sécheresse, les canicules et les incendies, en tout cas qui ont traversé notre territoire. Et puis on avait cette volonté aussi, comme chaque année, de faire communauté de destin. Et là aussi, on a vu à travers le monde comment cet élément eau s'est manifesté, soit par son trop-plein, soit par son manque, des sécheresses, mais aussi des inondations, très récemment encore au Pakistan.
Alors le principe de ce festival, c'est de mélanger les styles, les intervenants. Vous mélangez des conférences, des concerts, villages d'associations. Vous attendez plus de 15 000 personnes.
Oui, c'est depuis le début de Climax, l'idée c'est vraiment d'être dans un format hybride, dans la diversité. Donc on a effectivement des temps de table ronde, des temps de concerts, de performances artistiques et sportives, et aussi un village activiste. Et dans le choix aussi des invités et des grands intervenants, il y a cette volonté, cette même volonté d'accueillir des personnalités très diverses qui n'ont pas forcément l'habitude d'être rassemblés à la même table. On peut, autour d'une même table ronde, rassembler un chaman et un avocat. Et c'est justement ça qui fait aussi tout le relief de cette rencontre. C'est de faire cette fameuse communauté de destin dont on parle. Comment, en fait, finalement, tous, dans nos divergences, nos différences, on est finalement reliés par des thèmes et des champs communs.
Merci beaucoup, on va vous laisser repartir parce que du coup vous êtes extrêmement occupé évidemment quand on est comme ça dans la première journée du festival que l'on organise.
Oui,
on
n'a pas c'est bien lancé là, ça y est.
Que ouais. Les médias à gérer, on a plein d'autres choses à faire. Donc merci d'être passé dans cette émission et on va parler nous avec les grands témoins qui sont avec nous dans cette émission. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous êtes auteur-réalisateur de nombreux films à succès comme Demain, Animal, qui invite tous les citoyens à se sentir concernés et à se mobiliser face à la dégradation de notre environnement. Bonjour Maxime de Rostolan.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, vous avez créé plusieurs projets qui répondent tous à des enjeux écologiques. Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets à fort impact environnemental. Ferme d'avenir pour promouvoir une agriculture non destructrice. La bascule pour inciter les citoyens à agir. Et le tout dernier, Selcop, c'est écrit sur votre t-shirt, qui propose des trajets en bateau à voile, beaucoup moins polluants évidemment que l'avion ou les ferries. Et avec nous aussi Thomas Binet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'environnement et fondateur de Vertigo Lab, un bureau d'études sur les modèles économiques de la transition. Vous êtes aussi agriculteur en Lot-et-Garonne. Alors j'aimerais tout d'abord revenir avec vous, messieurs, sur une conférence de presse qui en début de semaine a mis le feu sur les réseaux sociaux.
Bonjour, Paul Arruturo, LCI. Une question, j'allais dire, extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakovic, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
Et vous, sur le jet privé, monsieur Mbappé, vous en pensez quoi?
Oh, je pense rien. Merci.
Je précise qu'un voyage en jet pollue 50 fois plus qu'un voyage en train. Alors depuis, la direction du PSG a dit qu'elle réfléchissait à des solutions alternatives au jet pour se déplacer de ville en ville. Et parmi les nombreuses réactions, il y a eu celle de la climatologue Valérie Masson-Delmotte.
Pendant longtemps, dans les conférences publiques, je disais « Oh, ce serait tellement bien que quelqu'un comme Mbappé, il montre en fait qu'on peut, je sais pas, ramasser des déchets, qu'on peut se déplacer à vélo. » Les propos qu'il peut avoir, les gestes qu'il aura, ça aura une influence largement supérieure à tout ce que les scientifiques peuvent dire ou faire, parce qu'il fait rêver, il inspire de nombreuses personnes. Il sera un excellent ambassadeur, et puis il y a plein de scientifiques qui seraient ravis d'aller échanger avec les footballeurs au PSG et ailleurs, pour partager les connaissances et puis susciter leur action.
Comment est-ce que vous réagissez à cette affaire, Cyril Dion, qui, au-delà du monde du foot, est symbolique de notre époque, en fait?
Ben, je me dis qu'ils ont bien fait de rigoler, parce que sinon on n'en aurait jamais parlé comme ça, finalement. Parce que, bien sûr, c'est triste, c'est lamentable. Je sais pas, t'es Mbappé, t'as... je sais pas combien il y a de gens qui le suivent sur Instagram, je sais pas, 20 millions, j'en sais rien. Il y a une responsabilité, enfin, en 2022, tu peux pas dire, les jets privés, j'en pense rien... Quand on te pose une question sur le changement climatique, avoir l'air de trouver ça marrant, c'est pas possible. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on voit que ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en une journée...
En tout cas, ce n'est plus accepté, ce type de réaction.
Enfin, ils peuvent le faire, oui, bien sûr, puisqu'ils l'ont fait. Mais je veux dire, c'est plus accepté. Ils ont pris une espèce de déferlante sur les réseaux sociaux. Il y a carrément la première ministre qui dit, bah, je pense que quand même, ils devraient un peu réfléchir à ce qu'ils disent. Donc, le PSG est obligé de se positionner. Donc, il y a une conversation dans toute la société sur... Donc, bah, parfait, très bien. Bravo les gars.
En fait, c'est un contre-effet non prévu, quoi.
Ouais, exactement. Mais ça raconte quand même quelque chose de l'évolution de la société, des mentalités, qui est pas inintéressante. Ça manque de bol pour eux, c'est tombé juste après un été qui a été particulièrement riche en prise de conscience pour plein de gens, même si ça fait en fait plein d'étés qu'on vit ça. Mais là, il semble qu'en France, ça y est, là, ça soit descendu. Moi, j'ai envie de les remercier de façon indirecte pour nous avoir permis d'avoir cette petite séquence.
Maxime de Rostolan, vous qui êtes très mobilisé depuis longtemps sur ces enjeux-là, quand vous voyez ce type de réaction en 2022, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, qu'il va falloir faire Sail Cop à terre aussi, peut-être pour ouvrir une ligne entre Paris et Nantes en char à voile. Non, mais blague à part, moi, j'admire Cyril qui arrive à vouloir les remercier. Moi, je trouve ça affligeant, ça me rappelle le collège, quoi, les blagues, voilà, les gars du fond de la classe qui rigolent à chaque truc. Moi, ça me fait de la peine. On essaie de s'engager, nous tous, autant qu'on est. Et le monde du sport a du mal à se mobiliser. Et pourtant, on sait l'impact qu'il a. Enfin, moi, j'ai des amis surfeurs. Et il y a des amis surfeurs qui ont arrêté de courir la planète pour aller chercher la bonne vague parce qu'ils ont compris que ce n'était pas cohérent, quoi. Avec Game Earth, on essaie de faire d'engager les clubs, les licenciés. Voilà. Et pour l'instant, ça ne prend pas. Donc... Moi, je pense qu'effectivement, là, on est en train de passer une bascule et que la société ne laisse plus passer certaines choses qui juste... La fenêtre d'Overton, donc c'est le fait d'élargir un petit peu le cadre de ce qui est audible ou pas, joue maintenant un petit peu dans notre sens. C'est-à-dire que, voilà, on arrive à dire, bah, les jets privés, on va les arrêter. Il y a 3 ans, c'était même pas fasciste qu'on aurait été traité. Enfin, c'était dingue, quoi. Et là... La question se pose, donc c'est bien. Et moi, j'ai hâte que ça arrive et j'ai hâte qu'il ait une réaction, d'ailleurs. Je crois pas avoir entendu Mbappé faire un mea culpa. Ouais, c'est ça, en plus. Et moi, je me demandais s'il allait marquer un but, s'il allait mimer, tu sais, ils font tout le temps, s'il allait mimer un char à voile ou un truc comme ça, mais même. Non, mais voilà.
Mais ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis sur la fenêtre d'Overton, c'est qu'en fait, on a vachement entendu ces derniers temps des gens beaucoup plus radicaux. C'est le principe, hein, de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que vous envoyez des gens très radicaux dans les médias dire quelque chose qui va beaucoup plus loin que d'habitude. Et comme on entend ce discours-là, ceux qui semblent être plus modérés, tout d'un coup, sont beaucoup plus acceptés. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec l'extrême droite et tout ça. On a entendu, par exemple, cette jeune femme qui c'était celle qui s'était enchaînée, je sais plus si c'était celle qui s'était enchaînée au filet de voilà, au filet
pendant Roland Garros pendant la.
On a commencé à entendre plein de jeunes dire non mais attendez c'est plus possible, à entendre des gens beaucoup plus radicaux critiquer la société, la civilisation industrielle, à dire on peut plus prendre l'avion, on peut plus travailler dans des multinationales, et donc tout d'un coup des choses qui il y a quelques années paraissaient radicales ne le paraissent plus tant que ça maintenant. C'est bien.
Thomas Binet.
Mais ça brûle.
Bah, moi, personnellement, je trouve que ça... Je ne sais pas si je remercierai, mais moi, j'ai pris une claque. Et je pense que ça fait du bien. Enfin, moi, personnellement, ça me fait du bien de voir qu'en sortant de ma bulle, en fait, les gens ne passent pas du tout à ce que je pense. Et finalement, le monde de dehors, il est bien loin de l'impression que j'ai.
Ça, vous étiez surpris, en fait, qu'il y ait encore des gens qui rigolent sur le changement climatique en 2022.
Oui, disons que moi, dans ma bulle de vie, le matin, je prends mon vélo, je rencontre des gens qui savent ce que c'est que le changement climatique, qui luttent tous les jours contre ça. J'ai mes bureaux à Darwin, donc, où on a le festival Climax. Tout le monde est d'accord, on est un peu dans l'entre-soi. Je lis des magazines, je lis des tribunes dans le monde avec des gens autour de la table qui disent des choses que je partage. Et puis là, je prends une énorme claque. Je me dis, le gars rigole. En fait, c'est tellement à l'inverse de ce que je peux penser que ça m'a fait du bien, en fait. Enfin, et ça me fait réaliser que le chemin à parcourir, il est encore très, très long. Donc, et je pense que ça, c'est aussi ce que ça a créé chez pas mal de gens, d'où la réaction et d'où la déferlante aussi.
Voilà, le chemin à parcourir est extrêmement long parce que, par exemple, je me suis amusée à regarder un peu comment on vous présentait Cyril Dion et Maxime de Rostolin à chaque fois que vous intervenez quelque part. Et vous êtes toujours présenté comme militant activiste. C'est quelque chose que l'on ne met jamais à côté, par exemple, de Bernard Arnault quand il défend le capitalisme. On ne dit pas qu'il est militant activiste pour le capitalisme. Par contre, vous êtes toujours des militants activistes. Est-ce que ce n'est pas surprenant d'avoir toujours ces adjectifs à côté de vos noms ? Aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est surprenant, mais c'est un peu désagréable. C'est-à-dire que on aurait presque envie de se dire, mais qui peut se permettre de ne pas être militant pour le climat ou pour la question écologique en 2022 ? C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un truc qui est potentiellement la planète deviendrait partiellement inhabitable. T'es un peu militant là. Toi, tu veux que la planète reste habitable ? C'est un peu exagéré, je trouve quand même. Tu veux pas te calmer un peu là ? Il y a un truc bizarre, non ? Enfin, c'est curieux.
Mais oui, moi je trouve ça bizarre aussi, mais c'est pour ça que je voulais avoir.
J'ai un vrai métier en plus. Enfin, ça va maintenant.
Ouais.
En tout cas, dans les faits, être entrepreneur pour le climat, c'est militer. C'est-à-dire que c'est en permanence. Alors, je n'ai pas la racine de militer, j'aurais dû regarder avant, mais en gros, on est quand même en permanence dans la lutte, le rapport de force, on est en permanence dans le martelage. Et voilà, moi, sur les quatre dernières structures que j'ai créées, à chaque fois, les six premiers mois, entre 6 mois et 1 an, je les ai consacrés à faire évoluer la loi pour avoir le droit de mettre en œuvre ce projet. C'est juste dingue. Et je vois, par exemple, là, sur Sailcop, on veut transporter des passagers à la voile avec des bateaux qui dorment au port. C'est quand même assez logique d'optimiser ça. Et en fait, non seulement on n'est pas aidé comme le sont EasyJet ou Vueling ou je ne sais pas quoi pour ce qui leur permet de sortir des Paris-Lisbonne à 15 euros, mais non seulement on n'est pas aidé, mais en plus ils nous mettent des bâtons dans les voiles. C'est-à-dire qu'en permanence, que ce soit avec l'exécutif d'abord pour les convaincre, et ensuite avec l'administration, c'est juste une lutte. Et donc, bon, il y en a d'autres hein, qui se disent, la Maïf se dit assureur militant. Et moi je ne trouve pas ça désagréable. Ce que je trouve effectivement ahurissant, c'est qu'on continue à nous catégoriser, nous, comme des gens un peu fous, un peu, alors que... Clairement, on l'a déjà dit 12 000 fois, mais ceux qui sont fous, c'est que ceux qui croient que ça peut continuer comme ça, quoi. Donc, ouais, mais après, activiste, militant, entrepreneur, ouais. Ça me va, parce qu'en fait, dans les faits, c'est vraiment ce qu'on fait, quoi. C'est qu'on martèle et on est tout le temps au front, quoi.
Ce qui est désagréable, c'est que c'est péjoratif, en fait. C'est que les gens disent ça pour dire...
Oui, c'est un militant.
Tu fais chier avec ton truc.
Mais ça le devient de moins en moins et cette actualité cette semaine l'a démontré. Alors ce qui est certain, et nous en parlerons dans un instant, c'est que les conséquences du changement climatique, elles sont bien là. Mais tout d'abord, place à Big Bassi Wani dans C'est pas du vent sur RFI.
Mmh. binen el kere wongi Loyem binen el kere wongi Ngeni yes di yibe yo Basori nigil ni be yo Loyes biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Loyes iho Inyonyo niño Loyes iho Iho ni mao Long yes mineng eli kere wongi Papire din chomo kiki bitong bimo Inge mwen mo kibi perne ni munu wongi Inyo baby wel ni bisgi wongi Hata ngong emle long Inge ni yo kiki wong Mumye abi wel ni bisgi wongi Spana din kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ninyo Ilong yesi ho Iho ni mao Ambombo kala ni meye Ilong yesi ho Iho ni wongi Si wo Inyon di mao
Eba
Le Camerounais Blik Bassi, qui participe d'ailleurs à Climax ce week-end, Wonny, dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, à l'occasion du festival Climax. Les conséquences du changement climatique sont là pour nous rappeler justement qu'il y a urgence à se mobiliser.
Ce glacier qui s'est effondré dimanche dernier dans les Alpes italiennes, conséquence du dérèglement climatique et de la sécheresse, la pire en Italie depuis 70 ans.
Cette rivière, située à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormalement élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations.
Les collines de Los Angeles en Californie, une nouvelle fois face à une sécheresse historique.
Cette nuit-là, il est tombé sur Abidjan 120 mm de pluie en seulement quelques heures. Dans la commune d'Atécoubé, une coulée de boue envahit 8 maisons.
Si l'Italie, le sud de la France, l'Espagne et le Portugal sont particulièrement touchés, c'est toute l'Europe qui est impactée, comme le montre l'état des cours d'eau sur le continent.
Cela fait 3 mois que des pluies torrentielles s'abattent sur le Soudan, provoquant d'importantes inondations qui ont déjà touché plus de 38 000 personnes cette année, selon les Nations Unies.
L'inquiétude concerne particulièrement les pays de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Kenya, Somalie, qui souffrent de la sécheresse dont dépendent l'agriculture et l'élevage.
C'est le triste bilan d'un été ici au Niger marqué par de multiples inondations.
La montée des eaux a également détruit de nombreuses récoltes, menaçant de provoquer une crise alimentaire dans un pays déjà en proie à un effondrement économique.
Thomas Binel, les inondations et les sécheresses, ça peut sembler surprenant, mais finalement, ce sont les deux symptômes d'un même problème.
Oui, c'est un peu les deux faces de la même pièce, en fait. Alors, je ne suis pas hydrologue et je ne me tenterai pas à des explications extrêmement scientifiques du sujet. Mais en effet, quelque chose que j'ai appris tout récemment, c'est que justement, après un gros épisode de sécheresse, quand il y a une pluie, en fait, le sol est tellement sec, imperméable et compact, que c'est là que ça génère les plus fortes inondations. Donc on a une espèce d'effet de boule de neige assez colossal, et en fait on travaille sur des effets de pic sécheresses, inondations, sécheresses qui sont assez importants. Ce qui peut expliquer l'avalanche de mauvaises nouvelles de votre jingle, qui fait vraiment, vraiment froid dans le dos, c'est des phénomènes macro et micro qu'on voit qui sont le résultat d'une succession de choix anthropiques, enfin choix humains et de conséquences naturelles qui sont improbables. Et alors moi, vous l'avez dit, je suis agriculteur, j'ai une petite exploitation agricole dans le sud-ouest, et à ma petite mesure, en fait, j'ai vu des choses assez incroyables. Nous, depuis mi-juin, on n'a pas eu d'eau. Alors que dans le sud-ouest, on a toujours des orages, on a toujours des choses qui viennent. Et les réserves d'eau sont extrêmement basses. Et alors, les hydrologues expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais les faibles niveaux de précipitation de cet hiver ont eu comme conséquence des réserves extrêmement basses. Je crois que chez nous, on a eu environ 100 mm qui est tombé entre janvier et mars, quelque chose comme ça. 12 mm en mars, enfin...
Alors que
des chiffres
c'est
qui sont insensés, on a au moins 80 mm par mois. Voilà. Donc ça, c'est vu du pluviomètre, en fait, voilà, tout simplement. Et c'est pas, faut pas aller voir plus loin que ça. Et donc aujourd'hui, cet été, on voyait de l'irrigation partout, avec des réserves basses, avec un peu la guerre de l'eau, telle qu'on l'avait imaginée il y a quelque temps, qui s'est vraiment réalisée.
Alors justement, lundi dernier avait lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, le sommet pour l'adaptation au climat en Afrique. La conférence était censée servir de prélude à la COP27, la conférence de Charles Melchek de novembre prochain sur les changements climatiques. Alors si les enjeux sont importants, le sommet de Rotterdam a suscité de nombreuses critiques, en cause l'absence très remarquée des dirigeants des pays industrialisés, notamment les pays européens, jugés responsables en grande partie du changement climatique. À Rotterdam, voici le reportage d'Antoine Moutou.
Un bâtiment flottant au beau milieu du port de Rotterdam. Dans un pays dont un tiers du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer, l'endroit choisi pour ce sommet sur l'adaptation au changement climatique en Afrique aurait pu fédérer, finalement, sur la photo de groupe des dirigeants venus au rendez-vous, beaucoup de chefs d'État africains, mais très peu de dirigeants européens ont pris la peine de se déplacer. Certains invités ont beaucoup de mal à cacher leur agacement, à l'image du président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall.
Je ne peux manquer de noter, avec un goût d'amertume, l'absence des dirigeants du monde industrialisé. Je pense que si nous avons fait l'effort de quitter l'Afrique, de venir à Rotterdam, il était plus facile quand même pour les Européens et les autres d'être là, puisque ce sont les principaux pollueurs de cette planète, et c'est eux qui doivent financer l'adaptation. Donc s'ils sont absents dans cette salle, comme le constat est fait, si le secteur privé également est absent, qui est l'un des principaux pollueurs, ça nous donne un goût d'inachevé avant même de démarrer cette rencontre. Je me devais, en toute honnêteté, d'exprimer cette déception.
Certains dirigeants se sont contentés d'apparitions en ligne, c'est le cas notamment de la première ministre danoise, Mette Frederiksen. D'autres ont préféré complètement décommander, comme le président français Emmanuel Macron, qui a envoyé à sa place sa secrétaire d'État chargée à la francophonie. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte est tout de même passé en fin de sommet. Il faut dire que l'enjeu pour lui est de taille. Le bâtiment de Rotterdam où s'est déroulée la rencontre a été inauguré l'an dernier. Il sert de siège au Centre mondial sur l'adaptation, une organisation internationale censée aider les gouvernements à mettre sur pied des solutions leur permettant de mieux affronter le changement climatique. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte ambitionne de faire de son pays le centre névralgique de cette lutte.
Comme vous le savez, une importante partie de ce pays se trouve sous le niveau de la mer. La plupart d'entre vous ont atterri à l'aéroport de Schiphol, qui se trouve à 4 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc nous avons des siècles d'expérience de maîtrise de l'eau, mais comme d'autres pays, les Pays-Bas ne sont pas du tout immunisés contre les conséquences du changement climatique. Nous devons donc continuer à nous adapter, à nous préparer et à riposter.
Au cours de ce sommet, certains participants ont pointé du doigt les injustices face au changement climatique et l'inégalité entre pays en développement et pays industrialisés. C'est notamment le cas du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a évoqué son mandat de président de l'Union africaine entre 2021 et 2022.
Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tel qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus. J'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique, mais paradoxalement, subit la majorité des conséquences de ces fléaux.
De son côté, le président de l'Union africaine, Macky Sall, a rappelé les pays industrialisés à leurs obligations.
Quand des pays comme ceux de l'Afrique sont appelés à renoncer au schéma pollueur que d'autres ont suivi sur des siècles pour mettre toute la planète dans son état actuel d'urgence environnementale, il est juste et logique qu'en contrepartie, le coût de l'adaptation qui en découle soit partagé de façon équitable.
Et il y aurait urgence, car conclusion de la rencontre, le continent africain manque d'environ 41 milliards d'euros par an pour financer des solutions l'aidant à mieux faire face au changement climatique.
Un reportage d'Antoine Moutot. Alors le Sénégal et la République démocratique du Congo qui ont multiplié ces dernières années les permis d'exploitation de gisements pétroliers et gaziers. Alors nous en parlions d'ailleurs la semaine dernière dans C'est pas du vent. Cyril Dion, là nous sommes bien finalement au cœur du problème.
On est au cœur du problème parce que on considère que dans le monde là il y a de l'ordre de 425 bombes climatiques donc qui sont des projets gaziers, pétroliers, fossiles qui, à eux seuls, pourraient faire basculer le monde dans un réchauffement de plus de 1,5 degré. Que l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il ne faudrait plus un seul nouveau projet, une seule nouvelle infrastructure fossile à partir d'aujourd'hui si on veut tenir les accords de Paris. Et que, comme vous le disiez, ces projets pullulent. Et ils pullulent parce que, la plupart du temps, les gouvernements sont... largement influencé, pour ne pas dire orienté, pour ne pas dire infiltré par des intérêts privés. Et la démocratie là-dedans a finalement relativement peu de pouvoir pour contrebalancer l'influence grandissante de ces multinationales.
Mais en même temps, on peut comprendre les propos de Macky Sall qui dit « Vous, les pays industrialisés, vous avez pollué pendant des années, pourquoi nous empêcher de le faire ?»
On comprend tout à fait. En l'occurrence... il y a une forme de rattrapage à opérer, c'est-à-dire qu'il y a besoin qu'il y ait une forte décroissance dans un certain nombre de pays comme les nôtres pour qu'il puisse y avoir un petit peu de développement, mais qui n'est pas obligé de se faire comme il s'est fait chez nous. C'est aussi ça dans d'autres pays. La raison principale, qui est totalement injuste, et je mesure à quel point ça peut l'être vu de sa fenêtre, c'est que si la planète devient inhabitable, elle va devenir inhabitable pour tout le monde et elle va devenir inhabitable encore plus rapidement en Afrique. Donc en fait, ce n'est pas une question de « laissez-moi polluer chez moi ». C'est une question de « la planète, elle se réchauffe sur l'ensemble du globe et si on dépasse les 1,5 degrés, en Afrique, ça va devenir intenable ». Et donc les problèmes d'eau, les problèmes d'agriculture, les problèmes de migration vont devenir explosifs. Donc c'est d'une certaine manière son intérêt premier que de participer à cette lutte-là et de participer surtout à interpeller, et là il a raison de le faire, les pays du Nord qui continuent, mais malgré tout, à être les plus émetteurs. L'Europe, en tout cas, on dit toujours que la France c'est 1% des émissions, mais c'est 1% des émissions parce que c'est 67 millions de personnes. Si on regarde par habitant, on est plutôt autour de 9-10 tonnes de CO2, alors qu'il faudrait être à 2-3 tonnes. Et là, dans un certain nombre de pays d'Afrique, comme la République démocratique du Congo ou comme le Niger, on est bien en dessous. Donc, rapporté au nombre d'habitants, on est encore... dans un schéma assez catastrophique en Europe. Les États-Unis, on n'en parle pas. Et puis la Chine et l'Inde arrivent doucement aux mêmes proportions.
Maxime de Rostolan.
Sachant que quand on dit 1%, c'est 1% local et qu'en fait, on délocalise. C'est-à-dire qu'en gros, sont comptés pour la Chine les émissions de nos trucs made in China qu'on ramène en France et qu'on consomme ici. Donc c'est aussi assez faussé. Et... je pense qu'il y a une forme, il faut planifier, c'est-à-dire qu'il faut prévoir. En gros, les scientifiques ils disent qu'il faut laisser 2/3 des réserves de pétrole connues sous le sol. Comment, et à la vitesse à laquelle on va, dans 7 ans, on a cramé le tiers auquel on a droit. Donc en fait, il faut vraiment commencer à changer l'aiguillage. Et ça, des réunions comme celle sur l'eau qui ont eu lieu aux Pays-Bas, c'est un moment clé pour planifier, pour réfléchir et pour essayer de se donner des orientations dont on sait d'ailleurs qu'elles sont très rarement suivies, mais au moins poser et l'inscrire, l'écrire quelque part, c'est important. Et il parle plus des pays industrialisés parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que les entreprises dont on sait qu'elles infiltrent et qu'elles influencent largement les décisions politiques, c'est elles qui continuent à tracter dans le mauvais sens. Juste un exemple, il y a une quinzaine d'années, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau, je suis allé visiter une usine Coca en Inde. Coca, donc j'ai compris ce qu'ils avaient fait. À l'époque, à un instant T, ils ont 5 usines qui produisent du Coca pour tous les Indiens. Ils avaient acheté, quelques années auparavant, 100 sites de 3 hectares, idéalement situés au-dessus des nappes phréatiques. Et ils ont inventé des usines pliables. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en gros, une usine, ils vont la mettre, ils vont pomper pendant 5 ans, et après, dès qu'il n'y a plus d'eau dans la nappe, ils plient et ils se mettent sur un des autres champs. Et en allant visiter cette usine, j'ai vu par hasard, il y avait du monde sur la route et on s'était arrêté. Et c'était des paysans qui étaient en train de creuser plus profondément. Donc ils passaient de 30 à 35 mètres, alors que de mémoire d'homme, l'eau était toujours à fleur de terre. Il y avait toujours eu de l'eau. Et là, ils n'avaient plus des pompes assez puissantes. Et donc, du coup, les paysans allaient partir en ville et arrêter de cultiver. Et en gros, je pense que la responsabilité d'entreprises comme celle-ci, qui créent des écocides, qui créent aussi beaucoup de misère et d'injustice sociale, elle est énorme et il y a un moment où il va falloir clairement, et je trouve très, très rigolo l'initiative qui est prise en ce moment d'appeler les différentes catastrophes climatiques du nom des entreprises qui en sont responsables, donc Total 1, Total 2. Enfin, il y a un moment où, pareil, ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. On n'est plus anticapitaliste, c'est pas juste une idéologie. C'est construit. On sait vraiment où le bas blesse, quoi.
Voilà, donc pensez-y la prochaine fois que vous aurez envie de boire un verre de Coca.
Juste, d'ailleurs, oui. Vous savez, pour donner la dimension du truc, vous savez à chaque seconde dans le monde combien il s'ouvre de produits Coca. Chaque seconde, c'est 11 000 canettes ou bouteilles, 11 000 toutes les secondes qui s'ouvrent. C'est juste, comment une entreprise comme ça ne se dit pas « j'ai une énorme responsabilité », il suffit de regarder les plages ou les deltas des pays d'Asie pour voir qu'en fait, ça crée au-delà des problèmes d'eau, des problèmes de pollution.
Alors sur les problèmes d'eau, Thomas Binet, vous venez de créer une association qui s'appelle Watershift. Alors expliquez-nous son objectif.
Alors Watershift, oui, je suis très heureux d'avoir l'occasion de pouvoir lancer officiellement Watershift, qui a été créé il y a une quinzaine de jours.
On rajoutera un roulement de tambour derrière vos propos.
Lancement du site web en coulisses, watershift.org. Donc, vous l'avez dit, moi, je dirige Vertigolab, un bureau d'études. Je mesure l'impact. Donc ce que vous étiez en train de dire, ça m'intéresse particulièrement. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. On a mesuré il y a quelque temps l'importance du scope 3 dans les émissions des entreprises.
Alors rappelez
c'est
très
un terme
vite,
barbare bien sûr que le scope 3, mais ce sont tout ce qui est émissions importées, émissions des fournisseurs de certaines entreprises. Et en fait, en France, en moyenne, le scope 3 représente 60% des émissions totales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on est aveugle. On prend les scopes 1 et 2 qui sont les émissions générales d'une entreprise et en fait, on oublie toutes les émissions, importées ou pas d'ailleurs, mais toutes les émissions des fournisseurs. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Toutes ces notions de mesure d'impact m'intéressent particulièrement parce qu'elles servent justement à orienter nos amis activistes et militants pour pouvoir orienter et faire les bons choix. Je reviens à l'eau. Je suis agriculteur, j'ai grandi dans une ferme. J'ai vu le sujet de la tragédie des communs, vous savez, cet accès libre qu'on offre à certaines ressources comme l'eau et le fait que tout le monde la dilapide de manière assez individuelle et égoïste depuis que je suis petit jusqu'à encore récemment, jusqu'à maintenant. Et l'eau m'a toujours passionné et l'eau d'agriculture en particulier. Depuis 2 ans, avec le soutien de la Fondation Mava, on développe un projet pour chercher à développer des solutions pour réduire la demande en eau. Parce qu'en fait, c'était un constat que j'avais fait il y a plusieurs années à l'invitation d'une conférence de l'Agence française de développement en Méditerranée, où je me suis aperçu que la plupart des projets qui étaient développés par les banques de développement en général, pas que l'AFD, la Banque mondiale et d'autres, traitaient essentiellement du développement de l'offre en eau. C'est-à-dire, il y a un problème d'accessibilité à l'eau, on va creuser plus profond, on va faire des barrages, on va développer des usines de dessalinisation, etc. Et en fait, finalement, et dans l'agriculture en particulier, rarement on touche le sujet de la réduction de la demande, c'est-à-dire comment développer des modèles agricoles qui sont plus économes, qui sont plus sobres et qui permettent finalement de mieux doser l'utilisation de l'eau. Et donc c'est tout l'objet du projet WaterShift, développer des solutions pour réduire la demande en eau. Et alors, a priori, on a commencé à travailler sur le bassin méditerranéen. On revient avec des résultats passionnants de Tunisie, du Maroc, d'Italie, des Pouilles, avec les meilleures pratiques. En fait, comme toujours, moi, je choisis les priorités et ce qui va générer le plus d'impact. Et donc, on a identifié les meilleures pratiques.
Non, par exemple ?
Par exemple, sur les Pouilles, on s'est aperçu qu'il y avait la plupart des oliveraies, des vignerais qui n'ont pas d'herbe. Tout est nu. Tout est travaillé comme ça, à la fois pour faire propre, selon les exploitants, et aussi parce que ça se fait comme ça, en fait. Et on a trouvé une exploitation, on a travaillé avec un bureau qui s'appelle Salvaterra là-dessus, on a trouvé une exploitation qui est gigantesque et qui est tout enherbée, et qui réduit finalement son irrigation de manière drastique, et qui permet en fait de garder un microclimat.
Ça limite l'évaporation.
Voilà, ça limite l'évaporation. Sur la Tunisie, sur les cultures d'amandier, où on a observé un effet rebond, peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer ce que c'est. Là, on est plutôt sur le recours à la fumure organique. C'est jamais finalement des technos hors sol en fait qu'on cherche à développer. C'est plutôt des liens avec l'agroforesterie, avec l'agriculture de conservation des sols, qui est l'idée de remettre du carbone dans les sols pour... qui, en fait, avec du carbone dans les sols, on stocke peut-être 20, 10, 20, 30% d'eau en plus, et elle est libérée plus progressivement. Au Maroc, dans la vallée du Sébou, on a regardé les problèmes et les questions techniques liées à la fertirrigation, qui est le fait de mettre des amendements organiques dans de la fertilisation. En fait, on utilise les systèmes d'irrigation pour faire de la fertilisation, donc pour amender, et utiliser des sources organiques au lieu d'utiliser des engrais phosphatés ou autres qui ont clairement une meilleure dissolution dans ces bidons avant qu'on les passe dans les gouttes à gouttes. Bah là, il y a des technos qui sont intéressantes. Encore faut-il les coupler avec des choses intelligentes de gestion collective, etc.
Donc le maïs sur du sable.
Oui, clairement, là, on a un sujet qui est, on utilise le substrat. Alors, quand il y a du sable, par exemple dans les Landes, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau en dessous. Mm-hmm. Et du coup, on ne se pose pas vraiment la question de ça.
Maxime de Rostelon, ça vous parle, ça? Parce que je le disais en introduction, vous avez créé Ferme d'Avenir. L'agriculture, c'est un levier hyper important.
C'était un gros sujet, ouais. On montrait qu'avec des pratiques, avec du sol couvert et avec de la densification de la production, on arrivait à réduire par 3 en maraîchage les besoins en irrigation. Et c'est pas rien. Et effectivement, enfin, y a l'agriculture de conservation des sols le permet. Et de fait, il va falloir remettre de la matière organique dans les sols pour pas être dépendant en permanence des engrais dont on sait qu'une petite crise géopolitique et l'approvisionnement peut être perturbé, quoi. Donc oui, bien sûr.
Bordelais, Arthur Satan, pris dans ses pas du vent sur RFI. Arthur Satan qui sera en concert ce soir ici à l'espace Darwin où se déroule durant tout le week-end le festival Climax. Alors en 2019, Maxime de Restolland, vous avez fondé un mouvement citoyen, un collectif qui s'appelle La Bascule.
Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir La Bascule. La Bascule est un mouvement pour accélérer la transition écologique. Il a été lancé en février 2019 par un groupe d'étudiants prêts à se mobiliser à temps plein pour promouvoir un modèle de société respectueux du vivant et amplifier la pression citoyenne. Le premier défi pour les basculeuses et les basculeurs était de créer un lieu d'expérimentation d'une vie écologique, solidaire et réellement démocratique. Ce lieu, c'est l'ancienne polyclinique de Pontivy, en Bretagne.
Voilà une initiative qui a pris de l'ampleur, Maxime de Restolland. Comment a évolué la bascule depuis 2019 ?
Franchement, c'est génial. Il se passe plein de choses. Dans la suite logique de Pontivy, il fallait trouver un lieu et les jeunes s'étaient vraiment implantés sur le territoire, avaient créé des liens et noué des liens avec pas mal de communautés, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les cathos. Il se trouve qu'il y avait pas mal de basculeurs qui étaient pratiquants et qui ont copiné avec des bonnes sœurs dans le coin qui ont fini par léguer un couvent à l'association. Donc on a récupéré un couvent d'une vingtaine de chambres avec 2 hectares sur un étang, c'est à Plouret, donc un peu plus loin en Bretagne encore. Et puis, de fil en aiguille, ils ont voulu monter d'autres lieux. On a récupéré une caserne à Joigny, en Bourgogne, avec une cinquantaine de chambres dans laquelle ils organisent pas mal d'événements, de formations. Et puis, plus récemment, alors il y a eu aussi toute une partie de la posture apprenante de coopération. En fait, moi, j'ai adoré ces jeunes qui ont dit, en fait, c'est une expérience irréversible d'avoir vécu ensemble au service d'un projet qui nous dépasse, un projet qui nous transcende un petit peu. Et on veut continuer à vivre ensemble et à essayer d'avoir des projets qui dépassent notre propre intérêt. Et donc, la posture apprenante de coopération, c'est Fertile qui a lancé des formations et qui fait des cursus qui fonctionnent très bien. Et plus récemment, il y a eu évidemment pas mal de jeunes de la bascule, puisque c'était un mouvement de lobbying citoyen. Donc, c'est politique, c'est très assumé politique, mais c'est apartisan. Ça se voulait apartisan. Et donc, ils ont poussé. Donc, certains ont accompagné la convention citoyenne pour le climat. Et d'autres ont été, pour la primaire populaire, très actifs. Et puis plus récemment, donc il y a Le Bruit qui court, donc une association qui a été montée par deux jeunes de la bascule, Maxime et Tanguy, et qui sont en résidence à Arles et qui essayent de mobiliser par la création artistique. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui continue de voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retrouve dans pas mal d'actions et de structures des jeunes basculeurs, et c'est super.
Ouais, c'est hyper enthousiasmant parce qu'on a besoin de ça, hein. Cyril Dion, vous êtes venu ici au Festival Climax à Bordeaux pour présenter votre dernière production. Ça s'appelle Un monde nouveau. C'est une série de 3 documentaires qui propose un plan en 3 étapes, hein, pour lutter contre les bouleversements climatiques, résister, s'adapter et régénérer.
Ouais, c'est des films qui ont été réalisés par Thierry Robert, que moi j'ai écrit et puis que j'incarne à l'écran. Et on voulait faire une sorte de mode d'emploi. Parce que ça m'arrive encore tout le temps d'avoir des gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça fait 15 ans que ça dure. On se dit, voilà.
Mais heureusement qu'il y a des gens qui se posent des questions.
Ouais, bien sûr. Non, mais parfois ça me déprime parce que quand on me dit mais alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle en 2022 ? Vous voyez, j'ai quand même l'impression que...
Ça fait 15 ans que je fais des films, il y a
non,
plein de bouquins.
Il n'y a pas que moi.
On fait des émissions, c'est vrai qu'on explique.
Il y a des livres, il y a des émissions, il y a des trucs sur Internet, il y a des vidéos maintenant, il y a des... On sait, quoi. Donc là, on a été... Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous dites, Maxime ?
Je dis, alors Cyril, il faut faire quoi, du coup ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, mais en pratique.
Utilisons cette émission de radio pour dire ce que l'on peut faire.
Non, mais donc là, on a essayé de faire quelque chose d'assez vaste, c'est-à-dire dire ce qu'il faudrait faire de façon générale, pas de façon individuelle, évidemment. Donc tout le premier épisode, c'est... on voit bien qu'il y a une espèce de... C'est ce que disait Maxime tout à l'heure, une espèce de rapport de force à engager, que les multinationales ne vont pas arrêter comme ça de forer, du pétrole. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aillent... occuper des mines de charbon, qu'il faut qu'il y en ait qui engagent des actions en justice, qu'il y en ait qui fassent de la désobéissance civile, qui même parfois aillent faire du sabotage.
Qui s'infiltrent dans les réunions d'actionnaires.
Oui, par exemple. Bon, donc on fait vraiment une espèce de panorama dans tout le premier épisode de comment on essaye d'engager ce rapport de force, d'arrêter les multinationales et en même temps de faire émerger un peu des actions qui amoindrissent ou cassent la courbe du changement climatique. Dans le deuxième épisode, on regarde plutôt l'adaptation, puisqu'on voit bien qu'il y a déjà des phénomènes climatiques qui sont enclenchés et auxquels on n'échappera pas. Donc on a été voir par exemple la ville du Cap qui est passée à quelques jours du jour zéro, c'est-à-dire du moment où il n'y avait plus d'eau au robinet. On a été voir Cuba qui a vécu une sorte d'effondrement dans son approvisionnement alimentaire au moment où l'URSS a été démantelé parce qu'ils importaient 90% de leur nourriture de là-bas. On a été voir en Autriche un village qui a été vraiment enseveli par une catastrophe forestière avec une avalanche et qui s'en est servi pour repenser complètement justement la gestion de la forêt et qui est devenue la région la plus productrice d'énergie renouvelable en Europe. Bon. Et puis un troisième sur la régénération qui est vraiment consacré un peu à et maintenant, c'est-à-dire quel genre de monde on veut construire. Donc là, on a été voir à la fois des gens qui régénéraient les écosystèmes naturels, qui replantaient des forêts, qui replantaient des mangroves, qui
réensemençaient le monde un peu.
Oui, qui remettaient des coraux, quoi. J'ai pas le bon terme, mais oui, bah, c'est replanter aussi un peu. Hein. Bon, voilà.
Bouturage de coraux.
Ouais. Ah voilà.
Alors. Qui bouturait.
Voilà, qui bouturait des coraux. c'est une technique. Hein. Et puis, on a été voir des gens qui essaient de régénérer nos systèmes démocratiques, nos systèmes économiques, nos systèmes éducatifs. Parce que c'est aussi ça, la régénération. C'est se dire, très bien si on arrive à arrêter un peu la catastrophe, mais quel genre de société on est capable de construire qui ne génère plus ça, voire même qui participe à résoudre le problème.
On a besoin de nouveaux récits, Cyril Dion. Ça, c'est vraiment... Votre conviction profonde.
Ouais, monsieur Récit.
Monsieur Récit.
Ben non, mais c'est, au-delà d'une conviction profonde, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire que si on veut construire un monde différent, il faut bien qu'on soit capable de l'imaginer. Et donc, pour l'imaginer, on a besoin d'élaborer des récits. Et puis, les récits, c'est. Dit toujours comme si c'était péjoratif, mais en fait, on vit dedans. Quoi. C'est Nancy Houston, la romancière, qui dit. Raconter des histoires pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. On passe notre temps à raconter des histoires, on ne fait que ça. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à agréger des faits, à les mettre dans un certain ordre, à leur donner une trajectoire de sens avec un début, un milieu, une fin, et c'est une histoire. Et donc la question c'est quelle histoire on a envie de se raconter tous ensemble maintenant, et pas une histoire factice, mais en gros, ça veut dire quelle trajectoire de sens on a envie de se donner en tant que civilisation humaine. On a envie que ça serve à quoi d'être là et de construire des structures collectives et de passer 90 ans ou plus, 101 ans, quand on est Edgar Morin, sur Terre.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le festival Climax, c'est pendant tout le week-end ici à l'Espace Darwin à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et l'installation de ce studio. Et merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons jeudi prochain, même planète, même heure.